En matière de dette, voire même maintenant en matière de sécurité internationale. Mais ces groupes n'ont aucune légitimité. Aucune légitimité. Seules les Nations Unies, avec tous leurs défauts, hein. Il ne s'agit pas de tout peindre en rose, évidemment.
Mais parce que c'est quand même 44 000 salariés, vous dites oui, mais par rapport à tout ce qu'ils font. Enfin, c'est quand même une énorme bureaucratie. Pour connaître un peu les postes des Nations Unies, casques bleus et autres à travers le monde, c'est quand même une inertie bureaucratique considérable.
C'est vrai que depuis quelques années, les Nations Unies ont...
Et c'est un libéral qui vous parle.
Et oui, je n'osais vous le faire remarquer, Daniel Mermet, mais bon. On pourrait dire que les Nations Unies, depuis une vingtaine d'années, n'ont pas perdu leur âme, mais ont tendance un peu à s'ankyloser. Parce que les États, les grandes puissances, même les populations, se sont détournées des Nations Unies, on n'en parle pas, on ne regarde pas ce qu'elles font. Et du coup, les Nations Unies se transforment en une espèce de machine qui ronronne, qui vivote. Et effectivement, pour être allé dans les différents sièges des Nations Unies, il y a un côté parfois un peu pesant. En plus, ils ont tendance à parler entre eux, une espèce d'anglais d'aéroport, bourré de sigles qu'on ne comprend pas. Ils font des ateliers, des commissions de travail. Effectivement, tout ça est un peu abscon, très bureaucratique. Mais ça, c'est plutôt une dérive. C'est pas dans la nature même des Nations Unies. La nature même des Nations Unies... Il faut quand même qu'on se rappelle que la charte qui fonde les Nations Unies commence par cette belle formule. Nous, les peuples des Nations Unies, donnons mandat à nos gouvernements pour créer, etc. Ça n'a rien à voir avec le Fonds monétaire international ou le G20, où on a des gens qui essaient simplement de préserver les intérêts de la bourgeoisie financière internationale. Donc il faudrait plutôt revenir à l'esprit d'origine des Nations Unies, qui ont été créées après la Seconde Guerre mondiale, dans un moment où il fallait réinstaller la civilisation, qui avait été malmené par le nazisme et par la guerre. Le contenu de la Déclaration universelle des droits de l'homme est très éclairant. À cet égard, si on le compare avec la pauvre charte dont l'Union européenne s'est dotée en 2000, il y a un fossé de civilisation. On évoque la nécessité de faire progresser la culture. On ne résume pas, comme le fait l'Union européenne, l'éducation à l'idée d'adapter les gens au marché du travail. Dans la Charte des Nations Unies, dans la Déclaration universelle, l'éducation, elle est là pour que les gens puissent développer un esprit fraternel, qu'ils puissent avoir connaissance des civilisations, qu'ils connaissent les autres pays, qu'ils deviennent finalement des êtres humains plus solidaires et plus ouverts sur le monde. Et c'est toutes ces valeurs-là qu'il faut retrouver, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir, Daniel Mermet, car rien ne vous échappe, que nous vivons une géopolitique très bouleversée. Martine Bullard parlait des tensions en Asie, on évoque même une guerre froide en Asie. La civilisation est à nouveau en danger. C'est-à-dire, on voit revenir des idéologies de guerre, des idéologies de prédation qui sont légitimées par les grandes puissances elles-mêmes, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni. L'être humain est de nouveau une chair à canon. Le Conseil de l'Europe dénonçait il y a quelques années les trafics d'organes qui ont lieu en Europe centrale ou à partir de certains terrains de conflit où on découpe les cadavres. Donc, tout est en train de basculer aujourd'hui. Il y a véritablement nécessité de réinstaller des valeurs de civilisation. Et tout imparfaites qu'elles sont, les Nations Unies restent le lieu le plus...
Alors, mais vous n'avez pas répondu à la question que vous vous êtes posée. Qui veut la peau de l'ONU?
Mais j'espérais, Daniel Mermet, faire monter la tension et que les gens se précipitent sur le monde diplomatique pour découvrir le nom de l'assassin.
La chute.
Voilà, si on dit tout de suite, après...
Ils ne l'achètent pas.
Les gens vont perdre l'habitude de soutenir la presse indépendante en allant au kiosque acheter le monde.
Donc, si vous voulez, la fin du film, c'est dans le Diplo de février. Serge Halimi, un autre papier dans le Diplo, signé Alexander Cockburn, et qui évoque... l'époque de la contre-culture aux États-Unis.
Oui, parce que là, c'est un anniversaire qui sera sans doute assez peu célébré ailleurs, parce qu'il n'est pas très connu. C'est en 1962, il y a un manifeste qu'on appelle le manifeste de Port-Huron, et qui sera le manifeste de la contre-culture américaine. Et l'intérêt de ce manifeste, il faut se replacer dans les conditions de l'époque et voir en quelque sorte la différence, le contraste avec le mouvement d'Occupy Wall Street dont on parle beaucoup ces temps-ci. En 1962, Kennedy a été élu depuis un peu plus d'un an, il va mourir à peu près un an plus tard, et les États-Unis sont dans une période de grande prospérité. Pas tout le monde, mais disons qu'il y a une classe moyenne qui enfle de plus en plus, qui est prospère, et un pays où on s'ennuie un peu, d'ailleurs, pour se replacer.